Traduire et chanter en Inuktitut, langue du peuple inuit des titres cultes anglo-saxons, il fallait oser, pari réussi, embarquement immédiat pour le Grand Nord canadien.
Voix.
Chantal Laureau.
Bonjour Elissa Pi.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, autrice, compositrice Inuk. Vous avez grandi à Saluit, petit village arctique du Nunavik, dans le Grand Nord canadien, avant de vous installer à Montréal il y a un peu plus de 20 ans. On est ravis de vous recevoir pour parler de votre quatrième album solo. Un album très original puisque vous reprenez dans votre langue maternelle l'Inuktitut des standards rock et pop des années 70-80. Des standards signés Blondie, Cyndi Lauper, Led Zeppelin, Queen ou encore Pink Floyd. Pourquoi dites-vous que c'est votre album le plus personnel?
Parce que ces chansons-là sont venues dans le Nord, chez nous. Les nomades encore des années 60, très drastiquement, très vite, nos coutumes et notre manière de vivre a changé parce qu'on a dû être sédentarisés, envoyés au pensionnat, nos enfants arrachés. Alors, il y a beaucoup de dualité et en même temps, la musique rock and roll est arrivée. Mes oncles, qui s'appelaient dans le temps Sugluck et Salut Band maintenant, ont appris à jouer de la guitare. Ils avaient des cheveux longs, des hippies des années 60 et ils débarquaient du sud vers l'Ontario où ils étaient envoyés au pensionnat pour l'école, et pensionnat fédéral. Et après, ils reviennent au village. Complètement transformé. Et alors, ces musiques-là, je dis tout le temps, Led Zeppelin, c'est comme si Led Zeppelin est devenu, sont devenus nos amis. Le temps d'une chanson, c'est là qu'on a senti accueilli, pas jugé, aimé.
Mais sur quels critères avez-vous sélectionné ces 10 titres? 10 titres intemporels, mais j'imagine que la sélection a dû être compliquée.
Quand j'ai ouvert une porte, une chanson comme Blondie, Heart of Glass, j'ai réalisé que j'avais beaucoup, beaucoup d'émotions retenues que je ne savais même pas existaient. Et j'ai réalisé, OK, comment je vais travailler? Parce que je devais juste faire un petit album tout facile, tout léger. Et j'ai réalisé que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Et on a beaucoup de choses à raconter de cette époque-là. Et c'est celle qui me faisait pleurer. Qui me faisait vraiment donner des larmes, des émotions vraiment profondes. C'est comme ça que je choisissais la chanson.
Sur le critère de l'émotion.
Oui.
Celle qui vous faisait remonter le plus de souvenirs.
Oui, parce qu'on a expérimenté un petit peu 2-3 chansons pour voir les chansons de l'époque que j'aime. Et une fois que je travaillais avec Joe Grass, qui est le arrangeur-réalisateur, on testait les chansons comme ça et quand je voyais que ça marchait pas tout à fait, aller jusqu'au bout, l'émotion, où il n'y avait pas une fluidité, la façon qu'on voulait arranger, je réalisais c'est parce que la chanson ne va pas assez loin dans mes émotions, tu vois, ça ne m'amène pas assez loin. Alors, c'est vraiment trouver cette vérité qui était finalement un vrai travail archéologique émotionnel.
Kissing on the tide, toss
city Takanavi Sangin il satar sorti I kola na porte mi Okro I kinar to mi A city nirri Tarsi nirri Kirar to
Wish You Were Here de Pink Floyd, revisité par Elisa Pi. Comment se prononce ce titre en, dans votre langue maternelle, l'Inuktitut?
Haïsimalaouetok.
cette phrase, bien sûr, cette phrase, je voudrais que tu sois là en français, vous l'avez dite des milliers de fois à des personnes disparues. Pourquoi les paroles de cette chanson prennent-elles une signification plus lourde, plus profonde lorsqu'elles sont chantées en Inuktitut?
Inuktitut, parce que autant qu'il y avait la musique qui nous faisait danser beaucoup, il y a aussi la musique qui nous accompagnait aux moments difficiles. Et il faut savoir que dans le Grand Nord canadien, les Inuits, c'est le taux de suicide le plus élevé au monde entier. Et ça, ça a commencé les années 80, quand j'ai l'impression qu'on a tout vécu ces drames, finalement, de changements drastiques et de force de notre culture.
Vous dites alors que dans votre communauté, chaque hiver, vous perdiez 3 jeunes.
Ah, mais je me souviens d'être ado et je me souviens avoir perdu 3 cousins en un hiver. Alors, cette chanson-là, Pink Floyd, peut-être aussi parce qu'il représentait vraiment la musique que nos parents écoutaient durant qu'ils vivaient tout ce qu'ils vivaient. Et je pense que c'est le lien qu'on avait avec nos parents. Et quand on écoutait Pink Floyd, surtout cette chanson-là, c'est comme si c'était notre... C'est la musique faire notre deuil, finalement. Alors, quand je réécoute ça, j'ai encore des... j'ai beaucoup d'émotions à ce moment, parce que la façon aussi que The Westerlies, le quatuor avant, ont amené ça, c'est comme si on a enfin libéré toutes nos peines. C'est comme si on a ouvert le ciel et est ouvert à nous. Alors, c'est comme ça que j'ai voulu transformer cette chanson-là aussi pour se libérer de ces peines, de ces traumatismes, finalement.
Ouais. Pourquoi les jeunes sont-ils aussi désespérés? Ils auraient voulu continuer à vivre comme leurs parents ou leurs grands-parents, c'est-à-dire non?
Ils sont même pas conscients de ça, je pense. Je pense que c'est plutôt nos grands-parents, nos parents qui sont conscients de ce qu'ils vivaient.
Qui ont eu plus de mal à s'adapter à un nouveau mode de vie, se sédentariser.
Parce qu'on est quand même moi je dis tout le temps, on est des gens tellement forts, on a dû survivre dans un environnement et on avait une intelligence qui vient avec le territoire aussi. Et je pense que de voir nos parents souffrir en silence a dû amener quelque chose qui n'est plus... c'est ça, c'est de ne pas nous laisser... la permission de s'exprimer et de dire que c'est difficile. Je pense que c'est ça qui fait mal. Mais maintenant, à travers l'art, à travers la musique, on réalise qu'on a besoin de s'exprimer, on a besoin de guérir, on a besoin de continuer à croire à notre culture. Mais on croit, mais d'être fier et aussi qu'on nous donne cet espace-là aussi en tant qu'Autochtones au Canada. Alors, je pense qu'il y a un réel réveil. Les gens qui réalisent, ah, c'est une richesse quand même, les Autochtones. Alors, ça fait du bien. Ça nous donne un peu de bouffée d'air. Ouais.
Est-ce que traduire les textes de ces chansons en langue Inuktitut a été compliqué?
C'est drôle, hein? J'ai l'impression, le fait que j'ai choisi la chanson qui vient vraiment de mon cœur m'a permis de faciliter le travail, parce que c'est sûr, c'est moi, je suis une chanteuse qui écrit des chansons dans la vie, je pense que ça aide beaucoup aussi. Je ne peux pas dire que c'était difficile. Oui, ça reste une job... il faut vraiment bien faire, traduire, mais surtout respecter ma langue aussi. Mais non, je pense le fait que c'est tellement... C'est comme si je l'entendais tellement de fois. C'est comme s'il y avait déjà un filtre dans mon cerveau qui fait que ça flow, ça coule.
Mais ouais. Qu'est-ce qui caractérise votre langue maternelle? Est-ce que c'est une langue imagée, poétique? Parce que c'est l'impression qu'on ressent en vous écoutant chanter.
C'est drôle, hein? Moi je ne dirais pas ça. Je trouve que c'est une langue très pratique. Même essayer de faire la poésie, c'est un peu bizarre parce que... C'est pour ça, je pense, la musique folk qui était si naturelle pour nous, parce que des Bob Dylan, des Neil Young, c'est pas nécessairement de la poésie comme on peut entendre dans la langue ou la musique française, peut-être. Alors, je pense que ça vient chercher le côté très simple, finalement.
Oui, parce que vous en avez fait des morceaux plus lents, plus dépouillés, qui évoquent peut-être l'univers du Grand Nord.
Oui. Totalement. Je pense que on prend le temps encore, hein? Encore maintenant. Moi, je suis comme ça. J'ai besoin de cet espace-là pour laisser l'espace vivre, le silence. On n'a aucune peur de silence. Alors, c'est sûr que quand c'était le moment de retrouver mes émotions à travers les chansons, c'était naturel d'y aller dans le côté qui est plus moi, finalement. C'est comme si on les transmettait dans... Le Nord, ces chansons-là, et ça sort comme ça.
Thank you.
Going to California de Led Zeppelin, interprété en Inuktitut par Elie Sapie, qui est aujourd'hui l'invitée de De Vive Voix sur RFI. Elie Sapie, je vous laisse traduire.
California Mood. C'est facile, celle-là.
Ah, ça, celle-là, elle est facile, effectivement. Quelques 40 000 personnes parlent aujourd'hui l'Inuktitut. Mm-hmm. Où vivent-elles majoritairement?
Alors, on a les Inuits au Canada, bien sûr. Dans l'Arctique, il y a aussi les gens de Alaska. Il y a Groenland aussi. Alors, tous ces gens-là, c'est des Inuits, même en Sibérie, en partie de Sibérie proche de Alaska. Alors, ouais, pourtant, c'est des dialectes qui changent. C'est extrême. Moi, j'ai déjà été en Alaska, en Sibérie.
Vous vous comprenez même?
Non.
Non.
Non, par contre, les choses comme Arnak, qui veut dire femme, papa, maman, il y a plein de choses qu'on a encore gardées.
Il y a un tronc commun?
Ouais, je dirais une sur trois, je comprends. Peut-être deux sur trois, des fois, quand j'étais à Groenland. Mais c'est juste, ça bougeait quand même, la langue. Ouais.
Et est-ce que votre langue maternelle est aujourd'hui menacée?
Oui, bien sûr. Je dirais plus dans le grand nord du Nunavut, nos voisins plus au nord, plus vers l'ouest. Il y en a quasiment un village, peut-être sur deux, où c'est vraiment l'anglais qui est omniprésent maintenant. Encore une fois, quand ces gens-là ont été envoyés au pensionnat, c'était interdit de parler leur langue. Tandis que moi, qui est aux régions du Nunavik, au Grand Nord québécois, on a encore vraiment notre langue, finalement, et c'est notre première langue, c'est la première langue qu'on parle.
Et est-ce qu'au Nunavik, l'Inuktitut est enseigné à l'école?
Oui, c'est enseigné à l'école à partir de troisième année d'école. Parce qu'avant ça, à partir de troisième année, on commence à apprendre le français. Alors avant ça, c'est que en Inuktitut.
Et dans les administrations, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on
tout le monde parle Inuktitut. Oui, oui.
Donc le problème, c'est quand on vient, par exemple, comme vous à Montréal, ne pas perdre la langue, continuer à la pratiquer.
Mais moi, je dirais, la musique me permet beaucoup encore une fois, écrire des chansons en anglais, en français, mais surtout en Inuktitut me laisse vraiment naviguer librement. Et ouais, je pense que j'ai été aussi un ancien journaliste avant. Alors, c'est comme la communication, c'est important pour moi de garder ça vivant.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous rappelle, Going to California de Led Zeppelin? Vos oncles musiciens?
Oui, mes oncles musiciens qui ont été inspirés par des Led Zeppelin, par des Bob Dylan. Pour moi, c'était aussi un hommage à les femmes, parce que ça raconte l'histoire d'une femme, cette femme mystique qu'on cherche, on la suit. Et j'ai trouvé ça beau de l'imaginer presque, cette chanson-là, comme dans le Nord, finalement, parce que California, c'est le désert, mais le Nord aussi,
c'est un désert différent, minéral.
Ouais, j'ai trouvé ça vraiment poétique et beau de l'entendre dans ma langue.
Kaiva, do meet Sunny.
Time After Time de Cyndi Lauper en version Inuktitut. Elissa Pi.
Time Angalima. Time Angalima. C'est facile.
C'est facile. Surtout quand on vous écoute. Que représentait Cyndi Lauper pour vous?
Oh, Cyndi Lauper, c'est comme un tonnerre, c'est comme une fougue, c'est comme. Il y a quelque chose qui est arrivé quand on l'a entendu la première fois. À la radio, j'étais avec mes grandes cousines qui étaient tellement plus cool que moi, beaucoup plus moderne parce que ma tante, elle est plus jeune que ma mère adoptive. Alors moi, j'ai grandi avec des gens qui étaient presque encore dans le ancien temps.
Alors,
Oui. C'est vraiment une autre vie, un autre rythme, tandis que chez ma tante à Alassie, avec mes cousines, j'ai appris à me maquiller, à
Elle vous a aidé à passer le cap de l'adolescence.
Exactement. Une chance qu'elle était là parce que... Mais mes cousines, c'est ça. Pour moi, c'est Cyndi Lauper. C'est comme si elle nous donnait la permission d'être des filles avec un peu plus de force. Elle nous disait que c'est correct de ça va si on crie fort. Ouais.
Elissa Pi, je vous propose d'écouter un grand monsieur qui a disparu en février dernier à l'âge de 102 ans, Jean Mallory, explorateur, ethnologue, écrivain. Il s'était pris de passion pour le peuple inuit et sa spiritualité. Il l'expliquait sur TV5 Monde en 2016.
Je suis français, je suis un scientifique, donc je suis dominé par des lois de la raison. Je me suis attaché à un ordre de la nature qui existe, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et comme je suis seul parmi eux, c'est ma règle. J'ai fait 31 missions. Peu à peu, ils m'ont transformé. Ce ne sont pas des hommes qui font des grands discours. C'est pas des Descartes, c'est pas des Emmanuel Kant. Ouais. Mais par des observations naturelles, peu à peu, ils me font comprendre que être inuit, c'est se mettre en état zen quand on regarde un trou de glace, quand on observe l'animal. Donc peu à peu, on s'imprègne de la nature. Et on passe dans un état second. C'est ce qu'on appelle en mystique, se mettre en relation avec les invisibles.
Elissa Pi, elle vous parle, les paroles de Jean Mallory?
Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est ça je réalise. C'est très difficile d'essayer de décrire qui on est, comment on voit les choses, parce que ce qu'on est, c'est vraiment au moment présent, d'être au moment présent. Parce qu'on n'avait pas le choix, hein, parce que pour survivre dans ces espaces quand même très durs, hostiles, on avait besoin de ne pas trop réfléchir sur ce qui s'est passé hier ou qui va se passer demain, parce que la chose première, c'est qu'on doit survivre. Mais par contre, on a appris à observer et ces observations ne sont pas écrites. Alors, on nous apprend à apprendre quelque chose en observant quelqu'un ou quelque chose. Alors, on est beaucoup dans, comme il dit, on est vraiment dans un état présence. On essaie de...
Et cette spiritualité, c'est votre héritage le plus précieux. Est-ce que vous l'avez toujours gardé ou est-ce que quand vous êtes arrivé à Montréal, vous vous êtes senti un moment écartelé?
Oh oui, totalement. C'est arrivé à Montréal dans un autre mode de vie où les codes ne sont pas du tout pareils, où on se sent aussi inférieur, tu sais, depuis que nos parents ont été regardés de haut quand ils vivaient dans des igloos et à manière de vivre, on mange du phoque, on est un autre... Oui, c'est ça. Je pense que pour moi, j'ai réalisé récemment vraiment que c'est en moi, cette façon de voir les choses. Et c'est important que j'en parle aussi pour le garder vivant, finalement. J'ai essayé de m'adapter et je pense que je suis quelqu'un qui peut vraiment s'adapter très rapidement et très bien. Mais des fois, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai besoin défaire tout ça et retrouver cet espace, cette philosophie, ce mode de vie qui est très zen finalement. Ouais.
Merci beaucoup, Elissa Pi, d'avoir été l'invitée de Vive Voix. J'invite nos auditeurs à écouter votre album Inuktitut et je signale aux Parisiens que vous chanterez demain soir au Café de la Danse, première date de votre tournée en France. Toutes les dates sont à retrouver sur notre site rfi.fr. Comme chaque lundi, nous avons à présent rendez-vous avec la chronique ailleurs. Et l'on part pour Berlin, où l'Institut français propose jusqu'au 15 juin une exposition d'Arthur Gillet intitulée « Tout ce dont vous n'avez jamais entendu parler ». Lisa Collin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice artistique des Vitrines, cet espace d'exposition consacré à la scène artistique française. Que cache ce titre mystérieux, « Tout ce dont vous n'avez jamais entendu parler »
Donc, c'est une exposition d'Arthur Gillet, c'est un artiste français que l'on appelle CODA, Child of Deaf Adult, c'est-à-dire un enfant de parents sourds. Et pour cette exposition, il a réalisé une fresque de 25 mètres de long, c'est une peinture sur soie, qui dépeint en fait sous forme de figures et de symboles les étapes de vie qu'ils ont rencontrées. Donc l'éducation de sa mère au couvent, où il était interdit de signer, le réveil sourd, qui est le mouvement pour la réhabilitation de la langue des signes française dans les années 70, leur intégration difficile dans le monde des entendantes et la violence de la différence au quotidien. Donc tout ce dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est l'histoire de la culture sourde à travers les yeux d'un artiste.
Et Arthur Gillet s'inspire des enluminures de Cristoforo de Predis, un artiste sourd lui aussi, du Moyen-Âge, qui maniait très très bien l'usage des couleurs vives et des symboles.
Oui, en effet. Ce qui intéresse ici l'artiste, c'est la force de la figuration. Donc, c'est un art qui était utilisé à cette époque dans les églises, sur les vitraux par exemple. Mais ça allait bien au-delà d'une dimension pédagogique ou décorative. Les fresques étaient destinées à devenir des supports pour les réflexions personnelles et le dialogue avec autrui. Et on retrouve en fait avec cette exposition la conviction que la figuration n'est pas un substitut d'un récit qu'on aurait pu nous transmettre, mais c'est une expression à part entière, riche et pleine de sens, et capable d'aller même au-delà du verbe, comme la langue des signes le fait. Et je pense qu'on a dénigré, et on dénigre encore, les capacités et l'intelligence propres à chaque individu ou à chaque culture.
Alors, cette exposition fait partie du programme Nouvelle Langue, que vous avez imaginé. Nouvelle Langue, pour montrer qu'on peut communiquer différemment.
Oui, Nouvelle Langue, c'est un programme qui valorise les pratiques artisanales. Donc, on aura de la peinture sur soie, comme ici avec Arthur Gillet, ou de la patine du bronze. C'est des techniques que l'on connaît depuis des siècles, mais les artistes ont une toute autre approche de ces savoir-faire. Ils les détournent et les utilisent pour transmettre des idées politiques ou des récits personnels, comme ici avec l'exposition d'Arthur Gillet et de l'histoire sourde. Donc, c'est aller au-delà de ces techniques traditionnelles, ça laisse place à des nouvelles images et à des récits beaucoup plus inclusifs. Et Nouvelle Langue, ça espère, en fait, à travers la communication non-verbale, à travers l'altérité et l'écoute des différences, créer quelque chose de commun et faire entendre des récits alternatifs qui trouvent difficilement leur place dans les expositions aujourd'hui.
Merci beaucoup, Lisa Collin. Tout ce dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est une exposition à découvrir à l'Institut français de Berlin jusqu'au 15 juin. Bonne journée. De Vive Voix touche à sa fin. À la réalisation, il y avait Olivier Roux. À la coordination, Cécile Lavolo. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Elissa Pi, je vous laisse dire au revoir à nos auditeurs en Inuktitut.
Nakormik, merci de l'invitation et je dis à tout le monde, au revoir, d'à côté la révolte.
À bientôt.